Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Vite, dépêche-toi. Ouais,
RTL. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est bientôt l'été, le bon moment pour faire lire les enfants, notamment grâce à l'été BD, dont RTL est partenaire. 20 héros de bande dessinée à 3 euros dans le cadre d'une opération qui s'appelle Lire en short. Parmi ces héros, il y a les Schtroumpfs. On vous raconte leur histoire avec Véronique Culliford, qui est la fille de Peyo, le créateur de ces petits bonhommes bleus. Il y a aussi
bonne
des
bonnes femmes,
il y a une Schtroumpfette, j'allais oublier. Comment votre père s'est choisi ce nom de Peyo?
C'est tout à fait par hasard, lors d'un déjeuner avec son ami Franquin, le dessinateur de Gaston Lagaffe. Mon père voulait la salière au milieu de la table. Et ne trouvant plus le mot salière, il a dit « passe-moi le truc, le Schtroumpf ». Franquin l'a entendu et il a trouvé ça tellement comique, il dit « ok, je te schtroumpf le schtroumpf, quand tu auras fini de schtroumpfer, tu me re-schtroumpferas ». Ça a duré tout le temps de leur déjeuner. Et il a gardé ce mot dans ses tiroirs en disant « si un jour j'ai besoin d'un nom pour un personnage, je le ressortirai ».
Et il l'a ressorti au bon moment. Et son nom à lui, parce que vous vous appelez Culliford, c'est son Culliford, nom de famille, il s'appelait Pierre Culliford, c'est
lui,
ça?
Lui, c'est Pierre Culliford.
Et Peyo, pourquoi Peyo?
Parce
ça vient
que
d'où?
Ce nom est d'origine anglaise et qu'on a quand même encore une partie de la famille en Angleterre. Un petit cousin ne sachant pas prononcer les R, parce qu'un enfant on dit pas Pierre, on dit Pierrot, il disait Peyo. Ah, et à l'époque, il était quand même de bon ton d'avoir un pseudo. Frère Culliford, c'est un petit peu difficile à prononcer parfois, donc il en a profité pour prendre Peyo.
Alors ces Schtroumpfs là, inventés avec Franquin sur un coin de table lors d'un déjeuner ou d'un dîner, quand est-ce qu'ils sont apparus dans un journal? Pour la première fois,
ils sont apparus dans le journal de Spirou, dans le magazine de Spirou, et c'était le 22 octobre 1958. Alors on voyait juste une petite main.
Juste une petite main?
Oui,
dans un buisson. Il n'y avait même pas le personnage en entier, il y avait juste une petite main bleue.
Il fallait attendre la semaine suivante.
Ah d'accord, c'était comme un teasing, quoi. Attention, qu'est-ce qui arrive?
Elle signifiait quoi, cette main bleue dans un buisson?
Mais c'était dans une histoire de Jean et Pirluit, donc Jean et Pirluit passaient dans la forêt et les Schtroumpfs s'étaient cachés dans un buisson et avec leurs petites mains, ils ouvraient le buisson pour voir qui est là.
Jean et Pierre-Louis, c'était les personnages déjà stars créés par Peyo et qui étaient publiés dans le journal de Spirou, c'est ça?
De Spirou aussi.
Depuis plusieurs années.
On a raconté ici même la vie de Franquin et l'ambiance qui régnait aussi dans la rédaction du journal de Spirou dans les années 60. Quel âge avait votre père à l'époque? Une trentaine d'années?
Tout à fait. Il avait 30 ans quand il a créé les Schtroumpfs.
C'est un petit jeune, en fait.
Un gamin,
hein. C'était une bande de joyeux drill. La bande de Peyo, de Franquin.
C'était une bande extraordinaire. C'était pour moi comme une deuxième famille. C'était vraiment des copains. Ils pouvaient passer des soirées à s'amuser. Et nous, en tant qu'enfants, on se cachait derrière les portes ou dans les escaliers pour les voir rire.
Ils vous racontaient des histoires à vous? Les enfants?
Non, ils se les racontaient entre eux et ils racontaient ces histoires à ma maman qui était, enfin pour lui c'était plus ou moins entre guillemets sa muse, donc elle avait quand même le dernier mot sur les histoires qu'il créait, mais à nous il ne nous racontait pas d'histoires. On allait dans son studio et on allait voir ce qu'il faisait.
C'est génial, quelle chance, vous pouviez lire les BD en permanence, c'est
voilà,
ça?
Oui,
vous étiez
les
premiers lecteurs et celle des autres, quelle chance. Dans les années 50, on ne rigolait pas avec les bonnes mœurs. J'ai lu que dans une de ces premières BD de votre papa, de Peyo, il y a une planche qui avait été censurée. Pourtant, elle racontait, quand on va le lire avec notre regard d'aujourd'hui, pas grand-chose. C'était quoi cette bande dessinée, cette planche?
C'était une histoire de Jean et Pirluit. C'était dans le châtiment de Bas-en-Haut, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait une scène de torture où on faisait boire, par un entonnoir, on faisait boire quelqu'un via un entonnoir, de l'eau, pour qu'il aurait fini par exploser s'il ne disait pas la vérité. Ils ont coupé cette scène parce que c'était pas... Donc il y a juste l'entonnoir dans la bouche d'un monsieur couché sur le dos et son ventre qui grossissait.
Et si on pense à ce qu'on peut lire ou voir...
Aujourd'hui,
effectivement, on voit que la société a effectivement évolué. Il fallait une forme d'innocence. Vous avez en partie répondu en décrivant l'ambiance au journal de Spirou. Il fallait une forme d'innocence pour créer ces personnages, pour écrire ces bandes dessinées.
Je crois que ces dessinateurs, cette bande-là, en tout cas, étaient restés des grands enfants et ne seraient jamais sortis de cet état-là.
Véronique Culliford, comment votre papa, Pierre Culliford, alias Peyo, est devenu dessinateur de BD? C'est une vocation? C'est un hasard?
Mais déjà dans ses cahiers, dans ses livres scolaires, je crois que les marges étaient pleines de petits dessins. Donc il avait cette patte d'artiste, il voulait absolument dessiner. Mais à l'époque, évidemment, ce n'était pas le métier idéal. On espérait toujours que son enfant devienne dentiste ou autre chose. C'était quand même, c'était mieux.
Donc il a dû batailler un peu
Il a dû batailler, je pense.
Pour faire ce métier, pour s'imposer.
Mais comme il n'était pas très 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 bon élève, finalement, je crois qu'il a fait des petits jobs. À gauche, à droite, puis c'était l'après-guerre aussi. Comme il avait perdu lui-même son papa, il était un peu forcé de travailler vite. Et il a trouvé une place dans un cinéma. C'est lui qui faisait le projectionniste dans un cinéma. D'où son amour du cinéma aussi. Puis il a travaillé dans un atelier de création de dessins animés aussi, juste après la guerre. Et puis dans la publicité. Donc tout ça était quand même un petit peu mêlé à la bande dessinée, au personnage.
Et qui lui donne sa chance? C'est chez Spirou?
C'est Spirou. C'est chez Spirou qui va s'envoler pour la première fois d'une manière réelle.
Son tout premier personnage, c'est ?
Son tout premier personnage, c'est Jean-Hippolyte.
Jean-Hippolyte. Ensuite, il y aura donc le premier album des Schtroumpfs, La flûte à six Schtroumpfs, c'est ça ?
Oui.
C'est le titre du premier album. Et ça donnera d'ailleurs un film en 1975.
Pierre-Louis, qu'est-ce qui se passe ?
Il m'a volé ma flûte.
Je n'ai pas bien grave.
Ah si ! Cette flûte est enchantée.
Et ceux qui l'entendent sont terrassés.
Et ce torche-sac est un voleur.
Et il te servira de la flûte pour voler les gens.
Il faut Schtroumpf et ça au grand Schtroumpf.
Que se passe-t-il?
C'est Jean-Louis.
Du calme, du calme. Allons les accueillir.
Voilà le grand Schtroumpf.
Un extrait du film La flûte à six Schtroumpfs.
Le grand Schtroumpf chez nous, c'est
Gérard Chalant. La Schtroumpfette, c'est...
D'ailleurs, il est en bleu aujourd'hui. Regardez-le sur RTL.fr.
Ce film, est-ce qu'il a demandé beaucoup de travail à votre papa, Véronique Uliford?
Énormément, parce que mon père est un perfectionniste. Et au lieu de laisser faire les autres, il voulait être là à chaque étape. Et c'était à ce moment-là, on dessinait... Un film était fait, un dessin animé... pour le cinéma, était fait sur des cellos. Donc tout était
c'est
peint
quoi,
à la main. Ce sont des papiers transparents, un petit peu, je ne vais pas dire caoutchouté, mais un peu dur, sur lequel étaient peints à la main toutes les scènes du dessin animé, à savoir qu'il y a autant d'images secondes, je ne sais plus très bien combien, mais c'est énorme comme travail.
Votre père,
approuver tout. Il voulait être là.
Il voulait contrôler quoi? Le dessin des Schtroumpfs, leur allure, leur personnalité? C'est ça qui le passionnait?
Le mouvement, la manière dont la trame était faite, même si c'était la reproduction du livre, mais il voulait vraiment être là tout le temps. Mais ça le passionnait. En même temps, mais pendant ce temps-là, il dessinait plus de BD.
Et oui, il n'y avait pas de nouvelles BD qui sortaient. Ce film qui lui a demandé beaucoup de travail, ça a été un succès?
Ça a été un grand succès. Francophone. Premièrement, après il est parti un petit peu à l'étranger, ce long métrage-là, mais c'était d'abord quelque chose de francophone.
Comment il travaillait, Peyo? Parce qu'il y a différentes techniques de dessin. Est-ce qu'il avait un trait, je ne sais pas, facile d'un trait, il dessinait son schtroumpf, ou alors est-ce qu'il travaillait d'abord au crayon, avec pas mal de traits de gomme ensuite, pour le retravailler? Comment ça se passait?
Mais ça dépendait des fois. Mais le personnage, un schtroumpf, est très simple comme dessin. Mm-hmm. Et c'est là la complexité du schtroumpf. Même un grand dessinateur comme Franquin disait, il est compliqué à faire tellement il est simple. Donc c'est un rond, c'est simple. Et lui, mon père, traçait d'abord en l'air le mouvement de la tête du schtroumpf, par exemple. Et puis seulement, ce crayon se déposait sur le papier et il faisait son rond. Moi, j'y suis jamais arrivée.
Vous avez essayé d'imiter votre papa pour dessiner des schtroumpfs?
Et chaque fois, il était mort de rire quand il voyait les schtroumpfs.
C'est vrai que je me rappelle, quand j'étais petite, moi, j'essayais de dessiner aussi des schtroumpfs. Je n'ai jamais réussi, donc je faisais des Snoopy. Snoopy, c'est facile à dessiner.
C'est plus facile.
Les Schtroumpfs, c'est impossible.
Ah, voilà. La simplicité est compliquée à obtenir. Alors, après ce succès au cinéma en France, il y a une aventure géniale. On va commencer à la raconter maintenant et puis on finira peut-être après le flash de Maxence Lambrec. C'est les États-Unis, Hollywood. Comment les Schtroumpfs se sont retrouvés à Hollywood? Ça démarre, je crois, par un acheteur de peluches, c'est ça, qui repère une petite peluche de Schtroumpf en Europe?
Oui, c'est ça. Ouais. En fait, et cette personne-là est arrivée aux États-Unis avec cette peluche. Mm-hmm. Je vous passe tous les détails, autrement on en a pour une heure, mais cette peluche s'est retrouvée dans le studio, dans le bureau du directeur de la NBC, de la chaîne NBC. Mm-hmm. Et bon, cette personne-là avait reçu une cassette démo d'un épisode Schtroumpf, enfin bon, sans plus. Et puis sa fille ou sa petite-fille est arrivée dans le studio, elle a pris le schtroumpf, elle a dit qu'elle adorait.
Elle a
donc
pris la peluche.
Elle a pris la peluche, ouais. Elle était vraiment tellement enthousiaste.
Le cri du cœur.
Bah, le papa, directeur du bureau, a passé cette démo et voilà. Et tout est parti de là. Comme quoi, le hasard fait bien les choses.
Qu'est-ce qui contacte votre père, votre papa? C'est, j'imagine, la scène, quoi. La NBC, c'est un des géants de la télévision aux États-Unis. C'est les studios Hanna-Barbera qui sont un géant des cartoons aux États-Unis. C'était qui?
C'est les studios, en fait, de Dupuis. Dupuis avait ouvert une antenne audiovisuelle. Oui. Et ce sont ces gens-là qui ont pris contact avec les États-Unis, avec Hanna-Barbera, pour faire une démo et pour aller le présenter à la NBC parce qu'ils croyaient vraiment dans le potentiel du Schtroumpf. Mais de là à croire qu'un personnage européen aurait pu traverser les frontières et avoir le succès qu'ils ont eu, là, il y avait vraiment une grande marge.
Donc, Véronique Uliford, ça veut dire que votre papa Peyo, créateur des Schtroumpfs, se retrouve propulsé aux États-Unis. Il parle anglais ?
Il a son nom qui est anglais, mais il ne parlait pas anglais. Mais il se débrouillait très bien, il n'avait peur de rien.
Ça se passe bien, ça, les premières réunions de travail avec les Américains?
Qu'il avait son grand copain, Yvan Delporte, avec qui il a fait pas mal de scénarios de plusieurs de ses personnages, qui l'accompagnait, qui lui était un parfait bilingue.
Et il voulait pas
qu'il avait son traducteur.
Il voulait pas que les Schtroumpfs soient trop américanisés, c'est ça,
non.
D'un mot?
Oui, tout à fait. Ils voulaient qu'ils restent ce qu'ils étaient dans les albums.
Et on va continuer de raconter cette histoire extraordinaire des Schtroumpfs à Hollywood, parce qu'ils vont conquérir Hollywood. On vous expliquera comment et pourquoi dans un petit instant.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Attention les Schtroumpfs, vous êtes prêts?
La curiosité est un vilain défaut.
Prêt pour la danse des Schtroumpfs?
Où est passé le Schtroumpf paresseux? Il devait aider le Schtroumpf grognon et moi à rassembler la récolte du Schtroumpf paysan.
Alors, jusqu'à 22h, Thomas Hugues.
Ah, quelqu'un m'a appelé?
Sidonie Bonnec.
Dis Schtroumpf, dis Schtroumpfette.
Oh, les Schtroumpfs qui aspirent, vous la connaissiez cette chanson?
Oui, je l'adore.
C'est de la techno de Schtroumpfs,
c'est Véronique Uliford qui répond, c'est là pour ceux qui nous rejoignent. Stromae qui s'amuse avec les Schtroumpfs de Peyo. En même temps, ce sont deux grands créateurs et artistes belges qui se rejoignent. Véronique Uliford, la fille de Peyo, est donc notre invitée. Je rappelle que les Schtroumpfs seront disponibles dans le cadre de l'été BD, 20 euros de bande dessinée à 3 euros. Opération dont RTL est partenaire. On parlait d'Hollywood. Hollywood, donc votre papa est contacté par, on va dire, via la maison Dupuis, le grand éditeur de BD, la chaîne de télévision NBC. Il y a des discussions pour que les Schtroumpfs ne s'américanisent pas. Ça veut dire quoi? Pas de chewing-gum, pas de Coca-Cola, par exemple?
C'est ce que mon père souhaitait, qu'on ne mette pas, en fait, les choses actuelles nos actualités dans le monde des Schtroumpfs pour cette série de dessins animés des années 80, je précise.
Oui, c'est ça. On était au tout début des années 80, oui. Et le politiquement correct à l'américaine, il s'impose aussi. C'est-à-dire que les Schtroumpfs noirs qui existent dans la BD qu'on connaît
ne pouvaient pas être noirs aux États-Unis.
De couleur aux,
voilà,
États-Unis, c'est
obligé
ça?
Obligés d'être pourpres.
Ils deviennent pourpres.
Oui. Voilà. Alors, on parle de couleur de Schtroumpf, Véronique Uliford. Il va falloir quand même, une bonne fois pour toutes, comprendre pourquoi ils sont bleus, ces fameux Schtroumpfs.
Eh bien, c'est une histoire de famille. Ma maman, qui a toujours été non seulement la muse de mon père, était également sa coloriste. C'est toujours elle qui a mis ses albums en couleur. Et elle a choisi, c'est elle qui a choisi le bleu, c'est sa faute. Qu'elle l'a fait, en fait, par élimination. Elle pouvait pas le faire ni vert ni brun parce qu'ils vivent dans la nature trop près de l'herbe, donc c'était pas bon,
pas. On
les verrait pas.
Camouflage.
Ils pouvaient pas avoir une couleur humaine parce que ce ne sont pas des êtres humains. Rouge, c'était trop agressif. Et alors, par élimination, elle a choisi le bleu.
Ben voilà, donc les Schtroumpfs sont bleus et ils vont cartonner aux États-Unis. Le premier épisode de cette série de cartoons aux États-Unis, diffusé le 12 septembre 81, il s'appelle The Smurfs.
Long, long ago, deep in the forest, there was a hidden village where tiny creatures lived. They called themselves Smurfs. They were good. Then there was Gargamel, the evil wizard. He was bad.
I hate Smurfs.
Moi, c'est drôle, c'est binaire. Il y a les Schtroumpfs, ils sont bons. Et puis il y a Gargamel, le méchant sorcier. Il est mauvais. Et il haït les Schtroumpfs, les Smurfs en version. Alors, il y a toutes les versions, tous les noms en fonction des pays. Mais aux États-Unis, moi, j'ai découvert ça en préparant l'émission, Véronique Uliford. C'est un gigantesque carton. C'est historique pour la télévision américaine, le succès des Schtroumpfs.
C'est historiquement mondial. Déjà qu'une série européenne et un tel succès aux États-Unis et fasse de telles performances en, en aussi peu de temps, tout à fait.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu d'autres héros de cartoon à l'américaine? Je ne sais pas, on pense tous à Bugs Bunny qui est fait aussi bien pour les premiers épisodes d'une série à la télé, c'est ça? C'est de ce niveau-là?
C'est d'un niveau, je dirais, que chaque personne qui a affaire à un schtroumpf une fois dans sa vie l'aime. Je vais vous dire le mot schtroumpf, vous allez sourire.
Ben oui, c'est
ce qui s'est passé dans le taxi tout à l'heure d'ailleurs. On vous dit schtroumpf, on sourit, c'est la bonne humeur, oui. C'est sympa, il n'y a pas de violence, ils ont vraiment toutes les qualités qu'on voudrait retrouver ou donner à nos enfants.
Oui.
Et nous-mêmes, on en rigole en tant qu'adultes, on regarde un petit coup d'œil aux épisodes parce qu'il y a toujours eu un double humour dans les histoires de mon père, une histoire pour les enfants, oui, avec un clin d'œil pour l'adulte. Donc tout le monde s'y retrouve.
Sinon, on entre dans l'histoire des schtroumpfs, ils naissent comment? Il y a des schtroumpfs enceintes ou enceintes qui donnent naissance à des petits schtroumpfs?
C'est vrai, c'est quoi? Qu'ils font des bébés, les schtroumpfs, comment ils arrivent?
Un jour, on a vu une cigogne arriver par une belle nuit de lune bleue apporter un petit bébé schtroumpf. Et voilà, je connais pas
ça
la suite.
Ça a commencé comme ça? Ils sont immortels, les schtroumpfs?
Ah, j'ose espérer, oui.
Il n'y a pas de mort chez les schtroumpfs?
Il n'y a pas de mort chez les schtroumpfs.
Jamais.
Le grand schtroumpf, c'est le plus vieux.
Il aura 542 ans aux chanterelles, oui.
Alors, la schtroumpf... Et aux chanterelles, on ne sait pas trop quand
voilà, c'est. C'est un mystère.
Il aura 542 ans.
On parle souvent de la schtroumpfette. C'est la femme rêvée, c'est ça, des schtroumpfs? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi les schtroumpfs.
Il y a elle. Enfin, au départ, il y avait elle. Il y a eu Sassette par la suite, qui est un personnage qui est intervenu aussi pour les séries dessins animés et pour une histoire. Mais c'est elle qui a la vedette, de toute façon.
Et les vedettes hommes parmi les schtroumpfs. Donc il y a la schtroumpfette et autour il y a quoi?
Il y a une vingtaine de personnages qui gravitent et qui sont vraiment, il y a le cuisinier, il y a le schtroumpf à lunettes, il y a le grincheux, il y a le schtroumpf
ils sont nommés, il y en a une vingtaine qui sont nommés.
Qui sont vraiment nommés, mais normalement chaque schtroumpf a un nom. Mais dans les séries, on en voit en général 20 qui gravitent.
Mais il y en a combien? Moi, quand j'étais gamin, je lisais les schtroumpfs, évidemment, et je voulais les compter, parce qu'il y en a partout. Donc j'essayais vraiment, hein. Je prenais ma BD, j'essayais de compter les schtroumpfs, j'y arrivais jamais.
Au maximum, vous en avez compté combien?
Je sais pas, j'en comptais 90, 95. Est-ce qu'on sait combien il y en a?
Je vais le dire en français, 99.
Ah, c'est gentil.
99,
il fallait pas passer la barre. Il fallait pas passer la barre des 100. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on parlait des noms. Donc, le nom anglais, c'est The Smurfs.
Oui.
Et en Allemagne, on ne pouvait pas les appeler les Schtroumpfs pour une bonne raison.
Parce que ce sont des bas de femmes, ce sont des Schtroumpfs en allemand. Donc, il fallait lui changer de nom et c'est devenu Schlumpf.
Et en espagnol, c'est les Pitufos.
Pitufos.
Ça, c'est un nom qui fait rire.
Voilà, c'est très euphonique. Non, en fait, on pouvait pas dire schtroumpf en anglais non plus, parce que pour un anglais, prononcer le R et le O, c'est déjà très difficile.
Mm-hmm.
Et puis, il y a une question d'euphonie et de gaieté. En Italie, c'est puffi, ça chante, comme la langue italienne peut être chantant.
Et en Chine?
Et en chinois, c'est lam xinling. Eux ne conjuguent pas, ils sont très poétiques, et lam xinling veut dire petit esprit bleu.
Oh,
donc, ils n'ont
joli.
Pas ce double sens. Comme nous, on a de pouvoir schtroumpfer tout ce qu'on veut.
Est-ce qu'ils s'amusaient avec les mots Peyot, votre papa, Franquin, etc.? Parce que quand on y réfléchit, schtroumpf, c'est le mot absolu. On peut le mettre partout, il remplace tous les mots.
Ah, il a toujours joué avec les mots. C'était une de leurs grandes passions, c'était de se raconter des blagues, de faire des jeux de mots, de faire des charades. Mm-hmm. C'était vraiment c'était le sport, ça.
Il y a deux expressions, il y a le schtroumpf de Peyot et le schmilblick de Coluche.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est des mots qui font rire et qui chatouillent.
Et qu'on n'oublie jamais.
Et peut-être que jamais. Coluche s'est inspiré de Peyot en créant son schmilblick. D'ailleurs, combien d'albums des schtroumpfs ont été publiés?
Jusqu'à présent, il y en a 33. Le 33e est sorti cette année-ci.
Mm. C'est quoi le titre?
Schtroumpf le héros.
Schtroumpf le héros. Votre papa a disparu en 92, c'est ça?
Oui.
Il était tout jeune, il avait 64 ans.
Mais le jour de Noël.
Qu'est-ce qui a pris la relève? Comment ça s'est passé?
Mon père nous avons eu cette grande chance, mon frère et moi, de travailler déjà avec mon père à l'époque. Et il n'a jamais eu l'intention, il l'a dit d'ailleurs dans certaines interviews, qu'il voulait que son personnage continue à vivre. Donc pour nous, on était rassurés, on faisait rien de mal.
Mm-hmm.
Et puis je crois qu'on a bien continué l'histoire,
oui, c'est vrai.
Plus de 20 ans après.
Avec plusieurs dessinateurs qui se sont succédés.
Il y a encore des dessinateurs qui sont au studio aujourd'hui, qui ont connu mon père, qui ont travaillé avec lui. Mais forcément, il y en a d'autres qui viennent parce que bon, le
et
travail est de
secret
plus en
du
plus
dessin.
Important. Et qui apprennent le secret du dessin.
C'est un secret, les schtroumpfs.
Merci beaucoup, c'était passionnant, Véronique Culliford. Je rappelle que les schtroumpfs, comme 19 autres héros de bande dessinée, sont disponibles à 3 euros seulement du 17 au 31 juillet dans le cadre de l'opération. Les TBD, c'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez TRTL.